Oui, bonjour, c'est Didier de Marseille. Voilà, je vous téléphone suite à la rediffusion de l'émission sur les arbres qui a eu lieu vendredi dernier. Et je voulais vous remercier d'avoir rectifié la coquille qu'avait fait Mathieu sur le sonorité sous les arbres. Voilà, donc il y a un montage qui a été fait. Merci en tout cas d'écouter vos auditeurs. Bon après-midi à vous. Bras de Rome.
Jean-Claude, j'appelle de Paris. Bon, alors, il faudrait savoir, là, j'entends aux informations que la mer monte en Nouvelle-Zélande. Et dans la même information, j'entends que la terre s'enfonce. Alors, il faudrait savoir si c'est la mer qui monte ou si c'est la terre qui s'enfonce. Il y a quelque chose qui ne va pas, là. C'est totalement idiot, mais enfin, on n'est plus à ça près, apparemment. Au revoir.
Bonjour la Terre au Carré, c'est Yannick Dessous dans la Drôme. Ça fait un moment que je veux vous appeler parce que je fais partie d'une association qui organise une résidence de composition pour des jeunes musiciens. L'idée étant qu'on accueille pendant une dizaine de jours 10 jeunes musiciens âgés de 13 à 25 ans et qu'on leur permet de s'initier à l'écriture de la musique grâce à une équipe de professionnels, de compositeurs, pédagogues et évidemment d'instrumentistes. Si je vous raconte tout ça, c'est que nous, on a la chance de vivre et de travailler dans un cadre absolument magnifique et notamment à proximité de la forêt de Soux, qui est une forêt de 2500 hectares qui abrite une biodiversité absolument remarquable. Et donc cette année, on a eu l'envie de faire travailler nos jeunes apprentis compositeurs sur les relations qui existent entre la musique, le langage et le récit, tout en inscrivant ce travail dans une réflexion liée à la nature. Alors la nature en tant que réceptacle du vivant et des relations entre l'humain et l'animal. Les artistes ont un rôle à jouer face au changement climatique, notamment les plus jeunes, ne serait-ce que pour essayer de dessiner la perspective d'un futur un peu plus désirable que celui qu'on nous promet jour après jour. Donc, il reste encore des places pour cette année. Ça s'appelle « Inventer pour apprendre » et ça se déroule à Soux du 8 au 19 juillet prochain. Voilà, merci.
Et merci Yannick pour votre message Soux qui se trouve effectivement à 30 minutes de Dieulfi où nous sommes cet après-midi. Le répondeur de la Terre au Carré dans la Drôme ou partout ailleurs, ce sont donc vos messages que nous diffusons tous les jours sur cette antenne en début d'émission et nous attendons bien sûr vos appels sur ce numéro que vous commencez à bien connaître, le 01 56 40 45 45. Et nous avons donc quitté les montagnes du Vercors et traversé des paysages époustouflants de la vallée de la Drôme pour arriver à Dieulfi où nous nous retrouvons. Donc aujourd'hui, nous sommes en Drôme provençale. Alors les champs de lavande ne sont pas encore en fleurs, mais le champ des cigales et les oliviers nous plongent déjà dans une toute autre ambiance pour explorer cette commune de 3250 habitants entourée de trois cours d'eau et qui rêve, paraît-il, de devenir fin juin le village préféré des Français. Mais au-delà de la carte postale touristique, Dieulfi incarne aujourd'hui un esprit particulier, un modèle pour les écolos qui rêvent de changer de vie ou qui se sont engagés dans une transition écologique et sociale. Alimentation bio, résilience alimentaire, gouvernance, habitat participatif, nous partons à la rencontre des habitants de Dieulfi pour comprendre ce qui est expérimenté ici dans tous ces domaines. Et pour nous accompagner pendant toute cette émission, un voisin drômois qui habite à une heure d'ici, l'auteur Pablo Servine. Bonjour Pablo.
Bonjour Mathieu.
Merci beaucoup de nous avoir rejoints à Dieulfi. On va essayer de comprendre avec vous pourquoi la Drôme attire autant les citadins en particulier. Et si la rencontre entre les néo-ruraux et les historiques se passe toujours bien. Camille Cronier, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
Alors toute cette semaine, vous passez au vert dans la Drôme. Et alors ici, à Dieulfi, vous êtes intéressé à une activité mais hyper répandue.
La céramique ou poterie, on peut dire les deux, dont l'esprit est lié à l'écologie. J'en ai parlé avec les élèves de la maison de la céramique et j'ai mis la main à la pâte.
Tu vas venir main gauche tenir ta motte et main droite, tu vas faire le crochet comme ça et tu vas venir percer
le centre.
Le sommet de ta motte.
Ok.
Voilà, doucement, doucement, doucement. Wow.
Mince. Oui, bon, j'ai été totalement nul, mais de toute façon, c'est cliché, il paraît, le tournage.
Atelier céramique à 14h30. Avant 15h, on retrouvera le reportage d'Annel Verzo, consacré aux luttes qui sont menées ici dans le département. Annel va nous emmener tout à l'heure à Oust-sur-Scie, où les habitants se divisent sur l'implantation d'un magasin Lidl. Voilà pour le sommaire de cette Terre au Carré, réalisée par Valérie Ayestaraï et Charles de Silia. Le dossier a été préparé par Lucie Sarfetti, Guillaume Rialan est notre chargé de production. Olivia Branger, Nicolas Mathias et Pierre-Yves de Rolin assurent la technique de l'émission.
Mathieu Vidard, la Terre au Carré. Sur France Inter.
Salut la Terre au Carré, bienvenue dans la Drôme.
Et nous sommes installés sur la place de l'abbé Magnier à Dieulfi, en plein cœur donc de la Drôme provençale. On a été rejoints par plusieurs habitants qu'on va vous présenter. Et le premier d'entre eux quand même, monsieur le maire Christian Bussat, éleveur de porc bio et maire donc du village. Bonjour à vous.
Bonjour Mathieu.
À vos côtés se trouve Chloé Peterman, céramiste à Dieulfi. Bonjour Chloé.
Bonjour Mathieu.
Camille Perrin est également avec nous, conseillère municipale sur la liste citoyenne déléguée à l'alimentation à Dieulfi. Bonjour.
Bonjour.
Et Antoine Martin, serrurier forgeron, avec un atelier, Antoine, installé pas très loin d'ici.
Pas très loin, bonjour.
Dans les remparts de Dieulfi. Christian Bussat, sur le fronton de l'église, ici, qui est juste en face de nous, on peut voir la devise de la ville. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est cette devise ?
Le temps passe, passe le bien.
Ce qui veut dire ?
Le temps passe, passe le bien.
Bon, ça résume bien l'esprit de Dieulfi, selon vous, ou pas, ça ?
Ouais, c'est une forme de, ouais, ouais, une forme de qualité de vie qui transparaît par cette petite phrase.
Ouais.
Qui n'est pas tout à fait sur l'église. Hein. C'est la tour de l'horloge, qui est un bâtiment classé, et ah oui. L'église est plutôt de l'autre côté.
Alors, oui. Ça, c'est donc l'esprit de la ville, effectivement. On va essayer de le décrypter hein, pendant toute cette Terre au Carré. Qui sont les habitants qui vivent ici à Dieulfi ? D'où viennent-ils ? Est-ce qu'ils sont originaires de la ville pour la plupart d'entre eux ? Ou est-ce qu'il y a vraiment beaucoup d'arrivants nouveaux ?
Il y en a combien ? Il y en a 3000, c'est ça ?
3200 et quelques, voilà. Il y a une base de gens du cru, ouais. on pourrait dire. Des gens autrefois des agriculteurs, des ouvriers. Il y a eu des grosses entreprises industrielles à Dieulfi qui ont malheureusement beaucoup fermé. Il y a eu des grosses entreprises aussi de poterie, poterie artisanale et puis poterie industrielle qui ont eux aussi ont fermé et se sont transformés aujourd'hui en céramique plus artisanale.
On en reparlera tout à l'heure, mais alors voilà. Les habitants d'ici, ils viennent d'où alors la plupart?
Et les habitants, alors il y a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur. Dieulfi est un lieu, après la guerre, on a dit, à Dieulfi, nul n'est étranger. C'est Pierre-Emmanuel qui a trouvé cette formule. Et c'est vrai qu'on est accueilli quand on vient de l'extérieur. Il y a un passé qui est magnifique. Hein, pendant la guerre, il y a eu des centaines de personnes qui ont été accueillies ici, des communistes, des juifs, qui ont été, des enfants, des adultes, qui ont été vraiment accueillis, recueillis, nourris. Donc il y a cette ambiance d'accueil qui est très présente.
Et envahie un peu plus récemment, notamment depuis le Covid ou pas alors ?
Envahie, c'est un grand mot. On est toujours très content de
Monsieur
de
le
recevoir.
Très diplomate,
j'allais le dire.
Non, mais vous allez voir, vous allez passer un moment là et puis peut-être
les prix
ce soir.
Immobiliers, ils ont
et puis ce soir, vous allez m'appeler, vous allez dire finalement, est-ce qu'il n'y a pas une petite maison qu'on peut trouver ici ?
Ah, mais il paraît qu'il y en a plus.
Très bien ici.
Il y a plus beaucoup.
Mais les prix ont grimpé,
ouais.
J'imagine.
Les prix ont un peu monté.
Pablo Servigne, alors vous qui êtes drômois, plus largement. Dans toutes ces communes comme Dieulfi, est-ce que vous avez vu un vrai changement ces dernières années et comment, d'une façon quasi sociologique, on peut vraiment observer l'arrivée de ces nouveaux habitants-là ?
Moi, je suis là depuis 6 ans, donc je suis pas vraiment drômois, mais depuis 6 ans, quand même, c'est pas mal. J'ai un petit recul et c'est vrai que depuis le confinement, le Covid, il y a eu une. Pas seulement une explosion des prix, mais une saturation du marché. Tout le monde, la moitié des gens qui se baladent a dit, j'exagère, mais ils sont en train de chercher un petit terrain, une petite maison. Et c'est assez impressionnant.
Vous me disiez que les gens, à un moment, achetaient même au téléphone sans visiter les maisons.
C'est vrai, à un moment, oui, en plein confinement, les agences étaient surprises. Les Parisiens achetaient à distance sans visiter, juste un coup de téléphone.
Ouais.
Et moi, je suis plus dans la montagne, dans les petits villages qui se sont dépeuplés pendant la guerre. Donc, un village de 100 habitants aujourd'hui qui en avait 1000 il y a un siècle. Et donc, c'est plutôt bienvenu les nouveaux habitants. Ouais. Mais c'est dur de les attirer aussi dans les petits villages.
Antoine Martin, votre famille est là depuis 4 générations, c'est ça ?
5.
5 générations, ouais. Et alors, est-ce qu'ils parlent justement de ce phénomène d'arrivée de nouveaux habitants ici ?
Non, pas particulièrement.
Ils ont vu changer beaucoup la ville ou pas, la commune?
Oui, il y a eu des hauts et des bas, et là, dernièrement, c'est vrai que ça s'est beaucoup redynamisé.
Vous comprenez pourquoi ça attire? Il y a quand même quelques ingrédients, j'imagine, assez...
Diolfi, c'est une ville extraordinaire. Il y a plein de choses, plein de choses à faire, plein d'associations, plein de... Il y a énormément de choses à faire. On s'embête jamais à Diolfi.
Paul Beauservine, pourquoi ça attire autant, à votre avis, la Drôme, alors?
Et comme disait Antoine, c'est vrai qu'il y a un terreau associatif. Moi, je suis plus du côté du Diwa, et pour 5000 habitants, dit, je crois qu'il y a quelque chose comme 1000 associations, des centaines. Et c'est ce terreau associatif qui fait qu'il y a vraiment une vie dynamique, qui favorise aussi la démocratie participative, peut-être on va en parler, mais je pense qu'il fait tout simplement bon vivre, c'est agréable. Et toutes les vagues de 68 ans, on va dire depuis mes 68, qui sont arrivés en Drôme, en Ardèche, qui se sont posés. Là, je pense que je fais partie de la quatrième vague, on va dire ça.
Ouais.
C'est surtout ça.
Mais pourquoi ici? Est-ce qu'on explique que depuis 68, là, comme vous dites, on va Drôme-Ardèche et pas ailleurs en France? Pourquoi cette région? Est-ce qu'on le sait? Pourquoi cette zone-là de la France?
Il y a une nature magnifique. Il y a des gens accueillants.
Oui, mais ça, il y a plein d'autres lieux en France où c'est le cas aussi.
Il y a une vie associative foisonnante. Ici, à Diolfi, on refait le monde. Il y a des associations dont l'objet, c'est de refaire le monde, c'est de réfléchir à l'avenir et de savoir comment on va vivre ensemble, comment on va améliorer les choses. Non, c'est pas partout comme ça.
On va demander, tiens, une Parisienne, pourquoi elle est venue ici, justement, Camille Perrin? Parce que vous, ça fait très peu de temps que vous êtes là, donc vous avez le profil typique de ces néo-ruraux, on va dire. Pourquoi est-ce que vous êtes venue ici à Diolfi, alors?
Oui, donc moi, c'était il y a 7 ans, et je suis venue ici parce que j'avais des attaches familiales dans la région, et surtout pour rejoindre un projet d'habitat participatif qui s'appelle Ecoravie.
Mais c'était aussi pour que vos aspirations profondes trouve un écho particulier aussi. C'est pour ça que vous avez quitté Paris, non?
Oui, c'est ça. C'était pour aussi mener une vie plus en cohérence avec mes valeurs. Parce que voilà, en région parisienne, on travaille beaucoup, on passe beaucoup de temps en transport en commun, on voit pas beaucoup ses enfants. Et donc c'était l'idée de revenir à quelque chose, un mode de vie plus simple et un mode d'action aussi plus en lien avec le territoire, avec les gens du territoire.
Paul Beauservine, vous qui travaillez beaucoup sur les questions d'écologie, est-ce que finalement ce qu'on pourrait appeler l'esprit de la Drôme regrouperait un petit peu toutes les valeurs liées aujourd'hui à tous les enjeux autour de l'écologie, du climat?
Oui, c'est ça, il y a vraiment un effet de réputation et effet boule de neige. C'est-à-dire que ça fait 50 ans que les gens viennent s'installer parce qu'il fait bon vivre et ils ont posé des initiatives écologiques qui ont perduré, qui ont fait écho, et la réputation attire de plus en plus d'écolos et qui se ressemblent, s'assemblent, et ça fait une boucle de rétroaction depuis 50 ans.
Ouais. Et c'est pas rien, et ça explique beaucoup de choses en fait sur l'attrait de ce territoire. Christian Bussat, en 2020, pour le second tour des municipales, les électeurs de Diolfi ont élu donc une liste participative pour diriger la commune, après l'exemple en 2014 de Saillant, qui avait été très médiatisé. Donc vous avez proposé un nouveau modèle de démocratie participative. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, une gouvernance participative dans un village comme Diolfi?
Alors d'abord, il faut pas oublier, nous avions deux piliers. Et là, vous parlez du deuxième pilier. On avait un premier pilier qui était la transition environnementale et sociale. C'est ce qui nous a rassemblés, tous les membres de la liste. On était conscients de l'urgence, aussi bien climatique qu'au niveau de la biodiversité, que des choix de société qui sont à faire et qui sont vraiment importants pour l'avenir. Donc on avait ce pilier. On n'est pas arrivé juste en disant on veut faire de la participation. Ensuite, pour que ces avancées puissent prendre corps, eh bien évidemment, faut le faire ensemble. On peut pas le faire tout seul.
Mais ça marche comment,
dans
alors
son coin. Donc concrètement, il faut, suivant les sujets, il faut envoyer des questionnaires à toute la population pour avoir leur avis sur l'extinction de l'éclairage public et savoir si ils sont plutôt favorables, plutôt défavorables. C'est faire des réunions avec le groupe de travail pour rassembler les deux écoles maternelles et élémentaires et travailler avec évidemment les instituts, les parents d'élèves, les enfants et les personnels.
Tous les habitants ont leur mot à dire sur toutes les décisions.
Chaque projet a eu un mode de participation. On s'est beaucoup inspiré, on s'est inspiré de ce qui s'était passé à Saillant.
Ouais.
On les a rencontrés. Ils sont venus nous voir aussi. On a essayé de comprendre ce qui s'était passé avec eux. Une des grosses différences, c'est que nous, on a vraiment une volonté à mettre en route. une volonté pour plus d'écologie.
Mais donc, qui est appliquée concrètement.
Donc pour l'appliquer, il faut qu'on soit ensemble. On ne peut pas le faire tout seul dans là-haut, dans mon bureau. Oui. Ça rime à rien. Donc il faut demander aux gens leur avis sur les choses.
Et ça marche bien, ça se passe bien, il y a une forme de cohésion qui se met en place.
On n'a pas été vraiment aidé par les conditions depuis 2 ans, mais ça se passe, je trouve, moi à ma place, je trouve que ça se passe bien. Ouais. Il y a de la souplesse, on s'adapte au sujet, au projet, et on fait au mieux.
Pablo
Servigne, pas forcément évident.
Vous avez participé à des débats publics assaillants, précisément. Quelle expérience on tire vraiment déjà de ce qui s'est passé là-bas depuis 2014? Ça fonctionne bien, la démocratie participative, comme ça?
Alors c'était, oui, de 2014 à 2020, j'ai un petit peu vu ça, mais j'habite pas à Saillant, mais j'ai suivi et je trouve qu'il y a eu vraiment un changement de culture, ils ont apporté quelque chose de nouveau, comme je disais tout à l'heure, sur un terreau vraiment très dynamique, associatif. Par contre, ils ont clivé, il y a eu du clivage, hein. Il y a eu la moitié du village qui a un peu grincé des dents, qu'est-ce que c'est que ces nouvelles manières de faire, il y a une sorte de, ils ont l'expression de consensus villageois. Qui était avant et qu'ils ont un peu tout chamboulé. Donc, en plus, il y a une pression médiatique, il faut l'avouer, assez forte.
C'est une sorte de laboratoire, hein, voilà. Comme une souris de laboratoire étudiée de très près.
Donc à la fois, c'est du positif, du nouveau. Moi, je trouve que c'est ça l'essentiel, c'est apporter de l'innovation politique et essayer des nouvelles choses et surtout faire de plus en plus participer pour de plus en plus, comment dire, former les gens à la démocratie, c'est ça, c'est les mettre les mains dans le cambouis, c'est pas juste voter une fois tous les...
Une forme de système en fait plus horizontal où, comme vous parliez d'ailleurs du tissu associatif en fait, les choses partent vraiment du terrain pour remonter plus que le contraire, c'est un petit peu ça le modèle
Oui, c'est ça, et enfin c'est plutôt des allers-retours entre le haut et le bas, mais dans les petites échelles, Christian peut-être confirmera, mais il y a justement, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas cette verticalité. Le haut et le bas, ils sont très proches. On peut faire des commissions, des groupes de travail, des commissions. Alors, à Saillant, c'était des binômes d'élus. Il y avait vraiment un conseil très collégial, très transparent. Et chaque thème, il le bossait avec des habitants motivés qui faisaient une commission. Et il y avait un binôme d'élus pour chaque commission, etc. C'était très concret.
Allez, on va poursuivre d'abord notre visite de la commune parce qu'on va emprunter la rue du Bourg avec tous nos invités, avec Chloé et Antoine. On va parler également de leur activité ici. Et on se retrouve dans un instant, donc en direct de Dieulfi, juste après Vendredi sur mer et le lac.
Mon esprit trop noir, tu sais, me fait perdre espoir. Je n'ai qu'une envie ce soir et je l'oublierai pour un peu te voir, pour un peu te voir.
Mes envies ne sont que des miroirs de tort. Ne rentre pas trop tard, j'ai peur de pleurer des larmes quand j'ai de nos. Je veux le lac. Dis-moi, tu peux, car je veux retrouver le lac dans tes yeux. Mais dis-moi si tu peux faire de moi une femme. J'en veux à ceux qui s'alarment du jeu. J'ai peur de tout décevoir, de nourrir mes erreurs et un jour y croire, puisque je veux. Je veux le lac. Dis-moi, tu peux, car je veux retrouver le lac dans tes yeux. Mais dis-moi si tu peux.
La Terre au carré sur France Inter.
Et si vous nous rejoignez aujourd'hui, nous sommes dans les rues de Dieulefi, dans la Drôme, deuxième étape de nos quatre saisons de la Terre au Carré. Pablo Servine donc, nous accompagne pendant toute cette balade. Alors c'est vrai que ce qui frappe à Camille quand on est comme dans cette rue du Bourg, en plein centre de la ville, c'est le nombre
de magasins de céramique. Ouais. Il n'y a que ça, quasiment.
Et Chloé Peterman, justement, est-ce que c'est ça qui vous a attiré, vous, ici, à Dieulefi, vous qui êtes céramiste d'origine suisse, hein, c'est ça?
Oui, tout à fait.
C'est pour la poterie que vous êtes venue ici?
Non, je vais être honnête, je suis venue pour un homme.
C'est normal, non?
C'est aussi une bonne raison. Quand même, de ce fait, c'est un homme que j'avais rencontré par la céramique, donc voilà, le lien est quand même là. Ouais. Je me suis effectivement retrouvée après Genève à Dieulefi, et donc sur un territoire où il y a énormément de céramistes installés.
Pourquoi vous, Dieulefi en particulier?
Pourquoi il y a autant de céramistes ici? Clairement, c'est lié à l'histoire. Comme souvent, les territoires où il y a beaucoup de céramistes, c'est lié à la géologie, c'est lié au fait qu'il y avait des carrières, c'est lié au fait qu'il y avait de la terre. Et en plus, à Dieulefi, il y avait une grande particularité de la terre qu'on trouve à Dieulefi, c'est qu'on peut en faire ce qu'on appelle de la terre à feu, qui sont des pièces qui résistent bien au choc thermique, donc on peut mettre sur la flamme, dans le four. Donc il y a eu toute une production pendant très longtemps de poterie très traditionnelle ici, la poterie de Dieulefi, qui est d'ailleurs très prisée toujours dans les vides-greniers et chez les antiquaires. Et parallèlement à ça, il y avait aussi, comme l'a dit Christian, des usines de céramique entre artisanales et industrielles, en tout cas manufacturées.
On écoutera le stage poterie de Camille dans quelques minutes à peine.
J'attends.
Vous, Chloé, est-ce qu'on parlait de démocratie participative? Vous êtes investie dans la vie de la commune ou pas?
Moi, je suis investie dans deux associations ici à Dieulefi. Une association qui s'appelle Passerelle, qui est une association d'accueil de personnes en exil. On accueille des personnes donc... En migration, on les aide dans leur intégration ici en France, mais on est aussi organisateur d'un événement, d'un gros festival qui s'appelle Les Murs ne servent à rien, qui est un festival de films, de lectures, de conférences, de discussions autour des questions de migration, où on essaye d'apporter une information de haute qualité sur ces questions, on essaye de confronter des points de vue. Et l'autre association dans laquelle je suis au CA de Radiola, donc des collègues.
La radio locale, Radio La.
La web radio locale et associative de Dieulefi, qui est une radio qui, comme son nom l'indique, est faite par les habitants d'ici. Et qui est aussi un des grands objectifs de Radiola, c'est de faire de l'éducation aux médias et de l'éducation aux usages du numérique. C'est-à-dire qu'on est souvent, on intervient souvent dans le milieu scolaire.
Antoine, on le disait tout à l'heure, votre famille vit ici depuis 5 générations. Vous êtes serrurier forgeron. Oui. Et je crois que vous êtes revenu habiter ici, hein, c'est
tout
ça?
Tout à fait. Je suis parti une dizaine d'années.
Bonjour madame. Voilà, on salue les gens aux fenêtres. Vous allez bien?
On se fait prendre en photo.
Ça va bien? Vous êtes à l'ombre, vous, là, c'est chouette, hein?
Ah, mais je suis bien, là.
Mais oui, ça se voit que vous êtes bien. Nous, on est en plein soleil, là. On va se mettre à l'ombre.
On n'est pas mal non plus, franchement, on va pas se plaindre.
Antoine, pardon de nous avoir coupé.
Pas rien.
Donc vous êtes revenu de Strasbourg, c'est ça, hein?
Oui, j'ai travaillé à Lyon, à Strasbourg. J'ai rencontré ma femme. Et contrairement à Chloé, qui est Oh, je sais plus ce que tu as dit, mais peu importe. Moi, j'ai ramené ma femme à Dieulefi.
Elle est venue pour son homme.
Elle est venue pour son homme, voilà. Et moi, je suis parti pour aller chercher ma femme et je l'ai ramenée.
Ouais.
Et un peu comme Camille, c'est pour fonder une famille ici, c'est plus agréable qu'en ville, quoi. Ouais.
On parlait des sujets aussi qui concernent évidemment toute la population. Est-ce qu'il y a des vrais sujets de tension ici? Parce qu'on a une espèce d'image idéale de Dieulefi où tout semble bien rouler. Mais est-ce que quand même, il y a des sujets de friction?
De friction, oui, mais quand même, on discute bien malgré tout. C'est quand même un village où les gens sont ouverts à la discussion. Mmh. On parle même avec les gens avec qui on n'est pas d'accord. On parle des sujets.
C'est quoi les sujets qui fâchent alors?
On s'organise. Oh, les sujets qui fâchent.
Parce que le prix de l'immobilier, par exemple, c'est un sujet qui pose problème ici.
Oui, ça fait partie parce que les jeunes qui veulent venir s'installer à Dieulefi, c'est compliqué pour eux.
Ouais.
Alors moi j'ai eu la chance de pouvoir acheter ma maison avant le confinement et tout, j'ai pas été impacté.
Ouais.
Mais voilà, après...
Est-ce que le rallye automobile de Dieulefi pose problème? Allez, mettons les pieds dans le plat tout de suite.
Tiens donc.
Le fameux rallye du Picodon.
Oui, ça pose problème, évidemment. Après, il y en a qui sont pour, qui sont contre.
Ouais.
Il y a un rallye automobile qui passe ici, Christian Bussa.
Oui, il y a un rallye qui est une vraie institution. Donc il y a 60 bénévoles qui chaque année prennent leurs vacances et installent tout le ferment les routes, installent des aménagements le long des routes pour faire passer des voitures qui passent à toute allure.
Ouais, mais une institution, est-ce que c'est encore malgré la tradition, on va dire, est-ce que c'est encore dans l'époque là en 2022 de faire des rallyes automobiles ?
C'est une excellente question.
Et donc, alors le maire en dit quoi ?
D'abord on a fait un questionnaire qu'on a donné à tous les commerçants pour savoir quelle place avait le rallye dans toutes les manifestations qui ont lieu chaque année à Diolfi. Et le rallye n'était pas si bien placé. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait toute une partie des commerçants qui n'étaient pas tellement emballés par ce rallye. Et puis on a proposé aux organisateurs de ne plus aider le rallye sur 3 ans. En 3 ans, on va baisser l'aide de la commune parce qu'effectivement, il nous semble que c'est plus tout à fait d'actualité pour une commune d'aider une activité comme ça.
Camille Perrin, autre expérience ici à Diolfi, celle justement autour de la démocratie alimentaire. Alors là, il faut nous expliquer, ça veut dire quoi et ça se concrétise comment ?
Alors, l'idée de la démocratie alimentaire, déjà l'alimentation, c'est un sujet qui touche tout le monde puisqu'on est tous des mangeurs, donc c'est un sujet fédérateur. Mmh. Et la question qu'on se pose donc, avec mon groupe de travail que j'anime là depuis septembre, où il y a une... soixantaine de personnes et...
Attention parce qu'on est dans une rue piétonne, mais il y a une voiture qui passe quand même. Donc on va laisser passer le monsieur. Bonjour.
On se réunit avec des habitants, des bénévoles, des associations de l'aide alimentaire, des commerçants, des producteurs, etc.
Ouais.
Et notre idée, c'est comment on crée du rapport de force par rapport au système agroalimentaire industriel. Comment on rend accessible une alimentation de qualité au plus grand nombre, mais notamment les foyers qui ont des petits budgets. Mmh. Et comment on garantit la rémunération des producteurs, parce qu'actuellement, sur 100 euros d'achat en moyenne, il n'y a que 6 euros qui reviennent aux agriculteurs.
Ouais. Et il y a une initiative très concrète avec un maraîcher ici qui propose, par exemple, des légumes avec 3 prix différents sur le marché, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Donc, en fait, les clients peuvent choisir en conscience. Donc, ils ont ce prix qui est affiché par le producteur, qui est rémunérateur pour avoir un revenu décent.
Ouais.
Et ils peuvent choisir donc soit ce prix, soit un prix à 125%, donc qui est solidaire et qui permet de financer des prix accessibles à 65% de ce prix.
Et ça marche ou pas ?
Ça marche super bien. Donc on a créé cet endroit, c'est au marché, c'est au lavoir, un ancien lavoir désaffecté,
ouais.
Qui est dans un quartier mixte où il y a des HLM, un éco-quartier, des maisons individuelles. Donc il y a une variété de publics, et notamment ce nouveau public qui d'habitude n'accédait pas à ce type d'alimentation.
Et vous, l'idée au-delà de tout ça, c'est de créer une sécurité sociale alimentaire. Donc ça va aller encore plus loin.
C'est ça. En fait, on s'inspire de la sécurité sociale telle qu'elle existait dans ces 20 premières années, de 46 à 67, où les gens avaient vraiment pris la main sur, on gagne un salaire, on a des cotisations qu'on met dans une caisse et qu'on gère ensemble, on décide ce qu'on fait. C'est-à-dire que on va dire que les rendez-vous chez le médecin vont être remboursés et on va décider d'investir pour créer des hôpitaux. Et il y avait vraiment une appropriation par les gens de cet argent qui était les cotisations qui passaient pas par l'État, pas par les banques, etc. Donc c'est vraiment...
Donc c'est retrouver cet esprit-là, en fait.
Retrouver cet esprit-là, mais pour l'alimentation. Ouais. Et donc il y a un enjeu de conventionnement, c'est-à-dire de dire quels aliments on va pouvoir acheter avec, si on avait chacun une carte vitale 150 euros par mois d'achat alimentaire, une carte vitale de l'alimentation par exemple, où est-ce qu'on pourrait dépenser cet argent,
ouais.
Et donc on veut que les citoyens puissent choisir où est-ce qu'ils vont les dépenser, et de la même manière qu'il y a des médecines conventionnées ou pas conventionnées.
Pablo Servine, ça justement c'est des moyens de remettre aussi tout ce qui est circuit court, production locale vraiment au centre, et de mieux manger et de mieux vivre.
C'est pas que ça, c'est pas que mieux vivre, c'est tout simplement manger. Il y a vraiment, depuis, on l'a vu avec le confinement, le Covid, et aussi la crise, la guerre en Ukraine, avec les problèmes de blé, futur approvisionnement. Ouais. C'est le temps, et c'est même un peu tard, de semer les patates, parce qu'il va y avoir une grave crise cette année alimentaire. Et en fait, juste pendant le confinement, on s'est rendu compte que s'il y a des ruptures d'approvisionnement, il faut investir dans le local. Et c'est juste ça, c'est pas une religion le local, c'est juste que ça nous sert quand il y a des ruptures et des problèmes.
Mais l'autonomie alimentaire, ici ça peut-être être jouable dans la Drôme, mais par exemple quand on a aussi vu ça au moment du confinement, Paris je crois en quelques jours n'aurait plus d'alimentation disponible. Donc comment est-ce qu'on gère ça ?
En 2-3 jours. Ouais. Oui, l'autonomie c'est pas le repli sur soi, c'est ça. Il y a évidemment le commerce continu. Moi j'ai une petite phrase pour dire contre les catastrophes locales, il continuera à y en avoir. Il y a le global, il y a le commerce. Évidemment, s'il y a une sécheresse dans la Drôme, on aura du commerce, etc. Et inversement, contre les catastrophes globales, par exemple la pandémie, les chocs systémiques, enfin une crise alimentaire majeure, etc. Eh bien, il faut investir dans le local.
Camille Perrin, donc il y a du pain sur la planche, hein. C'est une très belle initiative, une belle utopie, mais il faut la mettre vraiment en pratique aujourd'hui.
C'est ça, c'est pas une utopie. Et puis là, ça se développe à Pont-de-Barret juste à côté, à Poët-Laval. Il y a plein d'autres acteurs qui mettent ça, ce qu'on fait en place, et on coopère parce qu'on mutualise les moyens pour que ça existe.
Et la commune pousse à ça, bien sûr, parce que c'est quand même un projet global de la commune.
Merci Christian Bussa, monsieur le maire. Merci Camille, Antoine. On va repartir avec Pablo parce qu'on doit monter dans un autre quartier de la ville, qui s'appelle Eco Ravi. Et le temps de découvrir l'atelier poterie de Camille.
France Inter. La Terre au carré.
Et Camille Cronier, vous poursuivez donc vos expériences en testant différentes activités sur le terrain, donc ici dans la Drôme.
Et regardez un petit peu mes mains et mes ongles, encore pleins de terre, parce que je suis allée rencontrer des céramistes, une religion ici à Dieulefi. Ils sont plus de 60 professionnels avec un centre de formation ultra réputé à la Maison de la Céramique. Bien joli bâtiment dont la chef d'atelier Hélène Latoumetti m'a montré les trésors.
La cave à terre, là. Voilà, là t'as toutes les argiles possibles, tout ça c'est les faïences, donc blanche, rouge, grise. Là c'est les grès de Saint-Amand, tout ça c'est les porcelaines, tu vois, porcelaine de Limoges, porcelaine anglaise. Celle-là, elle est d'Australie, rare, mais parce que c'est une très bonne porcelaine d'Australie.
Pas très écolo quand même.
Non, celle-là elle est pas du tout écolo, non mais c'est vrai, hein. Elle est magnifique. Là t'as toutes les couleurs, toutes les matières premières...
Caverne d'Ali Baba.
Voilà. Cuivre, cobalt, fer.
Jus d'oxyde.
Jus d'oxyde pour faire des décors. Voilà. Après, ça, c'est la salle des fours. On les a appelés le vieux, le gros vert. On a aussi le bébé four pour les essais.
Et j'ai évidemment demandé d'essayer.
On lui trouve un tablier quand même là, parce que là.
Je m'en fous partout.
Ouais. Je vais te chercher une boule de grès. Hein. Alors, Jean, centre une boule.
Centre une boule et
comme ça, après, Camille, t'essaye. Ouais. Tourner, voilà.
Allez, c'est parti. Voilà, doucement. Il faut toujours laisser le temps à la terre.
Ouais.
Tu vas venir pousser comme ça, ici.
Sur le dessus.
Sur le dessus, et venir la rabattre. Voilà, doucement, doucement. Wow.
Je m'emballe.
Voilà, on relâche tout doucement.
Ouais.
Et tes petits doigts là, ils vont travailler.
Ah, par en
ils
dessous.
Vont projeter pour maintenir la terre. Voilà, on met un peu d'eau.
Et là, dites-le, vous êtes tous en train de penser à ça.
Alors,
oups.
On aimerait bien que la céramique sorte de
ski.
Voilà.
C'est le cliché numéro un.
Voilà.
C'est le cliché.
Un peu cucu.
Bon, on oublie Ghost et dans les autres idées reçues, il y a le tournage lui-même.
Les céramistes ne tournent pas. C'est pas du tout nécessaire pour faire de la céramique. C'est une technique parmi d'autres.
C'est l'image d'Épinal qu'on a en tête, mais il y a.
Il y a quoi alors comme technique?
Alors il y a le moulage, il y a le travail à la plaque, il y a le travail au colombin.
Et au-delà des techniques que ces trentenaires professionnels ou futurs professionnels perfectionnent ici, j'ai voulu m'intéresser à l'esprit de la céramique ou poterie. Tiens d'ailleurs, faut dire quoi?
Je sais pas.
La grande question.
Ah c'est pareil, c'est pas grave. Céramiste c'est plus large, c'est pas mal céramiste. Potière c'est plus tendre aussi, tu vois.
Voilà, bon on peut dire les deux. Et donc cet esprit, est-ce que c'est aussi une idée reçue de croire qu'il est lié à l'écologie? Eh ben non, cette fois confirmé. De la directrice de la Maison de la Céramique, Nadège Locatelli.
Moi, ce que je sens dans l'évolution, à force de voir passer des stagiaires chez nous, c'est qu'effectivement, il y a une sensibilité de plus en plus importante à l'environnement.
Via le circuit court et les méthodes de production, Jean Ponsard y réfléchit avec ses collègues de l'association de céramistes Profusion.
Actuellement, j'ai le choix entre cuire au gaz et cuire à l'électrique. Donc soit j'achète du gaz russe, soit j'achète de l'électricité nucléaire. Et du coup, on est en train de réfléchir ici à créer des fours à bois, à sourcer nos approvisionnements en bois, qui soient locaux, à dépolluer nos ateliers, parce qu'on travaille avec des métaux lourds, etc. Et là, on est en train de voir comment est-ce que nous, on peut gérer nos déchets sans passer par Veolia.
En fait, se réapproprier toute la chaîne, parce que Manon, l'une des stagiaires, le rappelle.
Faut pas non plus faire du métier de céramiste forcément la panacée écologique, parce que c'est pas... Enfin, on peut tout à fait faire de la céramique de manière absolument pas écologique, c'est pas... inhérent au métier, ni même à la matière.
Et au-delà des matières premières, de la cuisson, il y a donc une philosophie sur laquelle ils se retrouvent tous, et c'est Pauline qui me l'a résumé.
J'ai l'impression que faire de la céramique, c'est aussi prendre conscience de la matière des choses. Et donc, si moi, en étant céramiste, je prends conscience de la matière de mes assiettes, de mes bols, et aussi des gestes qui ont été faits pour les produire, et ben en fait, moi, je suis plus capable d'aller acheter une assiette industrielle. Les personnes qui achètent ces objets, peut-être qu'elles changent aussi de rapport à la matière Et donc on sort un peu d'un système de surconsommation, de surproduction, de jeter les objets, d'en avoir rien à faire. Voilà, là si on choisit d'acheter un bol magnifique que quelqu'un nous vend et qu'il a fait avec son cœur, bah, on l'adopte, on va en prendre soin chez soi et c'est vraiment un autre rapport aux choses. Et moi, ça a changé mon rapport au monde, en fait.
Un nouveau rapport au monde à travers cet artisanat, qui est aussi symbole de vie pour Hélène, la chef d'atelier.
En ce moment, il y a un truc de dingue qui se passe à Dulfi, quoi. Vraiment, c'est le renouveau.
Alors bon, il y en a une qui n'a pas l'air d'y attacher beaucoup d'importance. C'est la région Auvergne-Rhône-Alpes, en train de sucrer les subventions pour les formations. Moi, en tout cas, hein, malgré ma bonne volonté, je ne me reconvertirai pas. La photo de mon œuvre est sur les réseaux sociaux. Vous vous rendrez donc, comme moi, à l'évidence. C'est une énorme bouse.
Oui, mais une très jolie bouse quand même, hein, qu'on peut voir sur les réseaux sociaux.
Il y avait au moins, j'ai tenté, j'ai testé.
De la terre au carré, Camille Chronique qui s'initie à la céramique, c'est à réécouter sur franceinter.fr. Et justement, à quelques pas de la maison de la céramique se trouve un petit chemin qu'on a bien grimpé, hein, Pablo Servigne.
On est un peu essoufflé.
On n'est pas du tout épuisé. Ah,
avec un petit sac à dos sur les épaules et qui nous emmène donc dans ce quartier un peu particulier. Il s'agit d'un exemple d'habitat participatif. Ça s'appelle Eco Ravi et l'une de ses habitantes, Claire, nous y attend. Bonjour Claire.
Bonjour, bienvenue à vous. Je suis ravie de vous recevoir dans cet endroit magnifique que j'habite depuis 5 ans, mais qui a été préparé déjà il y a 15 ans. Voilà.
C'était votre rêve, quoi, finalement.
Quoi
c'est votre rêve, là, qui est devant nous, quand même. Hein.
C'est une utopie qui s'est réalisée. Beaucoup de gens nous disaient, vous n'y arriverez jamais.
Ouais.
Parce qu'il faut toujours un projet, un chef de projet pour faire...
Alors, vous faites partie des membres fondateurs donc d'Eco Ravi. Alors d'abord, pourquoi ce drôle de nom, Eco Ravi, franchement ?
C'est quoi, Eco Ravi, ça veut dire quoi ?
Alors, c'était la bonne question à me poser. Eco Ravi, ça veut dire écologique, coopérateur, réuni pour un habitat vivant, intergénérationnel et solidaire.
Oh là, tout ça !
C'est un peu résumé, du coup, Eco-Ravi, presque.
Tout est là.
Qu'est-ce que c'est, alors, le principe déjà décrire, donc ce sont des maisons en... Des appartements en bois?
Alors, l'important, au départ, notre projet, c'était de construire ensemble. Et puis, en fait, ce qui est beaucoup plus important ici, c'est comment on va expérimenter de vivre ensemble. Parce que vivre ensemble, c'est beaucoup plus compliqué que construire.
Mais c'est quoi? C'est pas une grande colocation, quand même? C'est le principe?
C'est une coopérative d'habitants. Et nous...
Il n'y a pas de propriétaire, hein, Claire, c'est ça?
Nous sommes propriétaires collectivement et nous sommes
locataires de vos appartements.
De nos appartements, nous avons le droit d'usage de nos appartements.
Ouais.
Voilà. Et donc, les décisions sont prises tous ensemble. On a construit en grande partie ces bâtiments, les intérieurs, pas l'extérieur. Donc, toutes les cloisons à l'intérieur, qui sont en terre et paille, ont été construites par les habitants d'Eco Ravi, mais aussi par beaucoup de gens qui sont venus en chantier participatif pour apprendre à faire des murs en paille, pour apprendre à faire des bardages pour mettre bas.
Alors vous savez, comme on est très curieux, on aimerait bien que vous nous montriez votre intérieur, Claire. C'est possible.
J'hésite un peu, j'hésite.
Non, ne me faites pas ça. Hein. Hier, vous étiez d'accord. Hein.
Oui, non, je suis tout à fait d'accord.
On passe devant votre jardin, là.
Voilà.
Qui est à vous? Donc, il y a tout le monde, alors, du coup, si je suis
Alors, ce jardin, il est à tout le monde, mais il se trouve que c'est moi qui m'en occupe très particulièrement et beaucoup. Et donc, tout le monde peut venir cueillir, mais on me demande un peu la permission quand même. Et puis, chacun va faire les mêmes jardins.
Ouais.
Maintenant que les autres maisons sont construites, ça va avancer.
Ouais. Donc là, on arrive. Alors, c'est très chouette, hein. Vous avez une vue, mais c'est incroyable. C'est magnifique.
On s'est beaucoup battu pour avoir ce lieu parce que c'est tellement magnifique.
Ouais.
C'est tellement proche de... Alors ça, c'est une voiture électrique.
Oui, c'est votre voisin qui passe là.
Qui fait partie de notre désir d'avoir une moindre empreinte...
Carbone.
On dit comment ?
Carbone.
Ouais. Donc, il y a plein de jeunes qui ont dit « Arrêtez les vieux avec vos vieilles voitures.
Ouais.
Vous vendez tout et on achète des voitures électriques, mais des petites. »
Mais ça, c'est pas forcément très écologique de racheter du neuf et de se débarrasser du vieux, non ?
Ah ben, quand c'est vieux, c'est vieux.
Oui, mais
quand
si ça marche encore.
Quand ça bouffe beaucoup d'essence, c'est pas un bon truc.
Il y a un petit débat là-dessus. Hein.
Et ça, ce sont des voitures très légères. Donc les batteries sont pas trop grosses, donc c'est moins grave que les... Ce qui est grave, c'est les gros 4x4.
Claire, est-ce qu'on peut rentrer chez vous? Parce qu'il fait un peu chaud dehors. Allez, donc je pense qu'on va trouver de la fraîcheur.
Mathieu Lézard se plaint de la chaleur.
À vos éco-matériaux. Ah, c'est ça, voilà. Donc on rentre chez Claire. Ah, il y a le bâton de marche qui vient de tomber. Mais c'est normal. Donc voilà. Donc, vous avez combien de mètres carrés à peu près ici?
Alors, j'ai 50 mètres carrés à l'intérieur et puis avec les... Ici, c'est une véranda avec la terrasse. Il y a 18 ouais. mètres carrés en plus de chaque côté.
Donc, c'est tout en bois, vous disiez. Il y avait
bois
aussi
paille.
Des bois paille, d'accord. Murs de paille en dessous.
C'est-à-dire que on a pris un constructeur qui a fait la structure. Nous, ce qu'on a fait, c'est l'intérieur.
Ouais. Donc là, il y a effectivement une très belle terrasse qui domine le paysage. Et donc là, on rentre chez vous. Il y a même un agréable courant d'air. Voilà. Et on arrive donc dans la pièce principale avec une petite cuisine, un grand salon.
On est discret, Claire. On est juste 10 dans l'équipe.
Voilà. Mais on va ressortir dans pas longtemps.
Donc, dans cette pièce, vous pouvez admirer les murs qui sont en terre paille et ouais. qui ont été construits par des gens d'ici et par les chantiers participatifs. Il faut dire qu'il y a trois couches, c'est un gros travail parce qu'il ouais. y a trois couches de terre paille.
Et ça isole bien?
Complètement.
C'est vrai?
Et surtout, le charme de cet endroit, c'est que ça nous renvoie toujours soit du chaud, soit du froid, selon la saison. C'est-à-dire, c'est pas le béton, c'est froid, voyez. Ça, c'est vivant comme ouais. Moi, j'ai 22 degrés ici,
c'est
tout le temps.
Ah oui.
Pour une dame de mon âge, c'est absolument nécessaire d'avoir ouais. Autant.
Claire, il y a quelque chose que tout le monde a aussi hein, dans les 18 appartements, je crois, du lieu. Ce sont ouais. des toilettes sèches, hein, donc ça fait partie de la maison. Je ne vais pas vous demander de nous les faire visiter, je vous crois sur parole, mais c'est important parce que vous en avez. Et je voudrais saluer votre voisine Cindy et Charlie qui nous ont rejoints, voisine et voisin, qui habitent juste au-dessus. Bonjour Cindy.
Bonjour.
Vous allez bien? Voilà, et Charlie, votre compagnon. Alors, on est passé, on ne l'a pas décrit, devant un jardin qui va devenir un jardin de permaculture. Et Claire, vous m'avez dit hier, à l'occasion de l'avenue de Pablo Servigne, que c'était à cause de lui, grâce à lui, que vous alliez faire un jardin de permaculture. C'est vrai, ça?
Oui, il nous a tous fait un petit peu peur, quoi.
C'est avec l'effondrement.
Ça s'effondre.
Oui, la peur, ça fait bouger aussi.
Il faut qu'on arrive à plus d'autonomie alimentaire. Voilà, c'est ça. Donc, Cindy est notre spécialiste voilà. de la...
Donc, vous pouvez discuter directement avec l'homme qui vous a finalement inspiré ce lieu, Cindy. Donc c'est vous qui êtes en charge du jardin, c'est ça?
Oui, mais moi je suis arrivée en cours de route.
Ouais.
Donc c'était déjà le projet de jardin en permaculture était déjà amorcé.
Ouais.
Et moi je suis arrivée pile au bon moment pour
reprendre le dossier et
accélérer les choses. Faire en sorte que ça se fasse.
Donc le projet, c'est quoi? C'est que le jardin puisse fournir tous les habitants. Il y a combien d'habitants ici à Ecoravi d'ailleurs?
Alors, il y a 44 habitants.
Ouais.
L'idée, c'est pour l'instant, l'idéal, ce serait d'atteindre une sorte d'autonomie en légumes, en fruits, petits fruits. Mais c'est aussi de faire autour des bâtiments tout un écosystème cultivé qui serait une sorte de havre nourricier pour tout le monde.
On va en discuter dans un instant parce que tout le monde prend des décisions justement ici à Ecoravi. C'est le principe de l'habitat participatif. On en parle dans quelques minutes, juste après Métronomie.
Les quatre saisons de la Terre au carré, le printemps dans la Drôme.
But I'm
Forget that I was only your lover.
La Terre au carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard et Camille Cronier sur France Inter.
À Dieulefit, dans la Drôme où nous sommes, il y a un quartier tout à fait particulier qui s'appelle Écoraville. Donc trois petits immeubles en bois avec 44 habitants qui décident de tout ensemble pour justement mener à bien leur projet. Claire Galland, vous êtes l'une des premières donc d'Écoraville. Vous étiez psychologue, je crois. Est-ce qu'il faut beaucoup de psychologie pour arriver à faire en sorte que chacun s'exprime sur les décisions à prendre ?
Il faut en tout cas mettre en place rapidement des processus qui permettent de décider ensemble et de prendre ensemble. Et c'est le gros problème dans les habitats participatifs, c'est l'humain. C'est l'humain, quelqu'un dise le putain de facteur humain, le PFH, oui. Nous on dit c'est le bérise. Précieux facteur humain, parce que ce qui est extraordinaire, quand on a des réunions, on a beaucoup de réunions, un petit peu trop, mais parce qu'il faut décider beaucoup de choses et on décide ensemble, mais on s'aperçoit que l'intelligence collective est une précieuse chose et qui nous redonne de l'énergie chaque fois qu'on y participe à ce genre de réunion.
Pablo Servigne, un témoignage, parce que vous-même, vous avez tenté l'expérience de l'habitat participatif et vous avez déchanté, je crois qu'on peut le dire comme ça. Hein.
Oui, disons que ça m'a appris pendant 2 ans, c'était il y a 6 ans, et c'était un lieu exactement comme ça, très intéressant au niveau technique. Au niveau humain, c'était compliqué, plein de réunions. Là, je suis content d'en être sorti, mais j'ai beaucoup appris. Je pense qu'il faut mettre les mains dans le cambouis, comme on disait tout à l'heure. La démocratie, c'est aussi ça, et il faut passer par là. C'est un apprentissage.
Est-ce qu'à Dieulefit, Cindy Lowe, tous les habitants ont une image, on va dire, assez bienveillante d'Écoraville, ou est-ce que ça peut être un sujet de tension aussi,
voire de moquerie?
Est-ce que finalement ça participe pas à une sorte de cliché qu'on peut avoir en France aussi sur le côté un peu très bobo, écolo, cliché total, au fin fond de la Drôme, quoi?
Eh bien, ça dépend. ça dépend sur qui on tombe. Et en fait, c'est aussi dû, s'il y a une mauvaise image, c'est dû à un manque de communication, de connaissances, enfin de liens avec les habitants. Et si ça se passe plutôt bien, c'est plutôt vu comme un exemple.
Ouais. Et moi, Claire, pour être vraiment sincère avec vous, j'ai croisé des habitants qui me disaient « Ah, vous allez voir les ravissants demain, là, les éco-ravissants, on se moque un peu de vous. »
Oui, nous sommes des éco-ravissants.
Ouais, c'est ça.
Il y a beaucoup de sympathie pour nous, puis il y a des gens qui pensent qu'on est un peu une secte aussi, qu'on doit faire l'amour ensemble.
Pablo Servigne, cette image quand même de cliché qu'il peut y avoir, hein, même sur la Drôme en général, voilà, les écolos de la Drôme, etc. Est-ce que c'est difficile de s'en détacher et de casser ce cliché là aussi?
Je sais pas s'il faut le casser, à mon avis il disparaîtra, mais quand il y a quelque chose de nouveau, voilà, c'est comme ça dans le pays, on râle, on se moque, c'est fréquent, mais ça fait 50 ans que ça existe et ça continuera, et c'est la nécessité qui fait loi.
C'est ça qu'il faudrait globaliser finalement. Est-ce qu'en gros, avec les enjeux climatiques qu'il y a aujourd'hui de biodiversité, est-ce qu'il faudrait finalement que le monde devienne la Drôme?
Non, je pense pas. Chaque région a ses particularités. Non, justement, ce qui est chouette dans la Drôme, c'est qu'ils ont trouvé quelque chose qui colle bien avec avec la région. Et chaque région attire aussi, hein, pendant le confinement, il y a eu dans le littoral, il y a eu plein de régions en ce moment qui sont très attirantes et qui ont chacune une particularité, à chacune de la trouver.
Il y a un autre sujet qui fait parler dans la Drôme, c'est l'installation d'un magasin Lidl dans une autre commune, celle d'Oust-sur-Scie dans la vallée de la Drôme. Depuis 2017, Lidl cherche à s'y implanter, mais les refus administratifs se succèdent pendant que les habitants, eux, sont très divisés sur la question. Voici le reportage d'Annelle Verzo.
Bonjour madame, vous êtes au courant qu'il y a un Lidl qui doit venir peut-être s'implanter ici ?
Depuis le temps qu'on entend parler, moi j'y crois plus. Pourtant ça rendrait bien service, comme moi qui ne conduis pas, ce serait bien utile.
Vous avez une épicerie ici, l'épicerie géniale.
Si on peut appeler ça une épicerie.
Ah, vous trouvez pas tout ce que vous voulez ?
Ben non, mais voilà, on attend.
Et j'ai maintenant rendez-vous avec le maire d'Oust-sur-Scie. Bonjour. Denis Benoît, vous êtes le maire d'Oust-sur-Scie. Vous êtes favorable ou défavorable à l'installation de Lidl ?
Personnellement, je ne suis pas favorable.
Et pour quelles raisons ?
Déstabilisation des petits commerces, qui plus est, sont en train de se développer. Donc. Et d'autre part, un problème de trafic et de flux automobiles dans Oust. Une des grandes forces de Lidl, c'est d'avoir su transformer une envie de faire des courses dans ce type de magasin en un besoin, ou le sentiment que j'avais au travers de ce que les gens pouvaient écrire sur les réseaux sociaux, c'est que si j'ai pas mon Lidl, je suis mort, quoi. Je peux pas vivre sans mon Lidl.
Je me trouve maintenant juste devant l'école d'Oust-sur-Scie. Ça va bientôt être la sortie.
De qui ?
Lidl.
J'aimerais beaucoup.
Vous aimeriez ?
Moi, ils me font rire quand ils disent « Ah, mais ça va nuire au commerce à Oust. » On n'a pas de commerce à Oust. On a une boulangerie, épicerie géniale, comme je dis. Pas si géniale que ça, et ça, je confirme.
Et pourquoi elle est pas si géniale que
vous
ça ?
Vous avez vu les prix, vous êtes rentré dans l'épicerie géniale, bon, ben, allez y faire un tour.
Allez, direction l'épicerie géniale. Bonjour. Là, je vois devant la caisse, il y a des produits, des pois cassés, du thon et des herbes. Et il y a écrit qui sont mis de côté pour ceux qui ont besoin. C'est les dons des clients. Alors les bananes, si on regarde les prix, sont à 2,95€ le kilo. Des œufs en vrac, 40 centimes pièce. Là, c'est des produits directs producteurs. Vous vous appelez comment, pardon ?
Guillaume.
Vous êtes combien à travailler là ?
On est 2 salariés et des dizaines de bénévoles. La philosophie de l'épicerie, les idées, les valeurs de l'épicerie, elles sont un peu tirées entre une accessibilité et une épicerie pour tous. C'est-à-dire qu'on veut avoir des produits pour tous les gens qui habitent dans le centre de Oust. Mais en même temps, on respecte une charte d'approvisionnement qu'on veut le plus local et le plus bio possible.
Alors Guillaume, il y a depuis 2017 Lidl qui cherche à s'implanter ici, juste à côté de la départementale. Pourquoi est-ce que vous vous battez contre l'implantation de Lidl ici ?
Principalement parce que c'est pas une alimentation de demain. Pour nous, aussi bien pour la santé des individus que pour la santé de la nature, de l'environnement, il faut privilégier une agriculture qui est plus durable et qui est plus saine. Et puis après, c'est ce qu'on disait, pour nous, on privilégie quand même une économie qui reste locale. Nous, l'équivalent création d'emploi par rapport au chiffre d'affaires du magasin, il sera direct. C'est-à-dire que dès qu'on va on va augmenter le chiffre d'affaires, on va forcément créer de l'emploi. Et puis nous, on est au tout début de notre histoire. Donc je pense qu'on pourrait encore s'agrandir, on pourrait aussi faire évoluer le projet en fonction des demandes des habitants, puisque c'est un projet qui est participatif, où les gens peuvent venir et dire « moi je suis pas content de votre offre parce que je trouve ça trop cher ou parce que c'est pas ce que j'achète d'habitude, et donc j'aimerais bien que vous commandiez ça et qu'on y réfléchisse ensemble ».
Reportage signé Annaëlle Verzo. Pablo Servine, ça vous inspire quoi ces tensions autour du Lidl ?
Mais c'est très intéressant, on a vraiment deux modèles de société en fait. C'est ce que disait tout à l'heure Camille Perrin sur l'autonomie, la sécurité alimentaire. En fait, on a un projet ici de la bagnole, une puissance financière, on a l'archétype de la mondialisation qui va rémunérer des actionnaires. En fait, c'est juste un projet de portefeuille, c'est pas cher certes, et versus un projet de vie avec du local, plus de, je sais pas, de vélo, de vie sociale quoi.
Merci Pablo Servigne de nous avoir accompagnés, d'être venu. Vous avez fait une heure et demie de route pour venir nous rejoindre ici. Claire, merci. Il y a un site internet Décoravi. On n'a pas eu le temps de parler de l'épargne citoyenne, mais c'est comme ça aussi que sont financés les appartements. Mais tout ça est expliqué sur votre site. Et puis on continue, Camille.
Et oui, demain les pieds dans l'eau, c'est ça.
Exactement. On va dans la Drôme et vous pouvez bien sûr retrouver les photos et les vidéos de cette première, de cette seconde journée ici dans la Drôme. Donc rendez-vous demain les pieds dans l'eau, effectivement.